Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans notre émission Parlons Foot 87.9 FM sur Fréquence CIE. Aujourd'hui je suis avec Valentin et Dylan, bonjour.
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 Donc au sommaire de cette émission, on va parler de la Ligue 2, de la Ligue 1, des championnats étrangers, quelques actualités qui s'est passées pendant cette dernière semaine. Donc.
Et de la coupe du district bien sûr.
Actualité locale.
Voilà.
Donc on va commencer avec la Ligue 2, Nîmes peut-il créer l'exploit en se maintenant? On rappelle qu'ils avaient 8 points de pénalité au début de saison.
Bah, Nîmes paraît supérieure aux équipes qui sont à côté d'elle pour le maintien. On l'a vu, à la surprise générale, elle s'est imposée 6-2 contre Clermont lors de la précédente journée du championnat.
Et 4-3 contre Nancy.
À Nancy, donc là c'était la précédente, pardon. Ils ont montré de la solidité, de l'envie, et personnellement je pense que Nîmes paraît au-dessus de tous pour se maintenir. Donc oui, Nîmes va créer l'exploit et Nîmes va se maintenir. C'est dommage qu'il y ait eu ces problèmes de points parce que je pense qu'aujourd'hui Nîmes serait dans le haut de tableau pour jouer la montée.
Ça pourrait leur coûter cher en fin de saison s'ils venaient à avoir des points de retard sur le maintien.
Bah, même chose que Dylan, c'est l'équipe de Nîmes est supérieure aux autres équipes comme Valenciennes, Ajaccio ou Paris FC, mais qu'elle a gagné en plus ces matchs-là importants, puis elle est en train de gagner contre les équipes qui jouent la montée, donc rien ne peut les empêcher de se maintenir en Ligue 2. Et sachant que s'ils se maintiennent en Ligue 2, pourquoi pas l'année prochaine, voire plus haut, et première moitié de tableau.
Après, ce qui peut leur faire défaut, c'est qu'ils ont un effectif qui est très jeune.
Un effectif aussi qui est...
Qui a des joueurs expérimentés avec Adi Garmach notamment.
Pas très large, hein, c'est un petit effectif.
Petit effectif, très jeune. Joueurs. Donc peut-être manque d'expérience en fin de saison.
Mais bon, ils ont... malgré tout, on voit que cette équipe, elle s'en sort bien. Quand on gagne 6-2 en Ligue 2... et qu'on a des points de retard, c'est que mentalement, cette équipe, elle est très forte. Hein, donc, je ne me fais pas de soucis pour la suite.
Ils nous produisent du spectacle, en tout cas. Donc, on va passer à la Ligue 1 avec le débrief de l'Olympico Lyon-Marseille. Avec notamment des faits encore sur l'arbitrage. Ça fait 3 semaines qu'on en parle dans cette émission.
Un premier match au Stade des Lumières, un premier Olympico. Donc, c'est pas mal. Les spectateurs n'ont pas dû être déçus, mais les Lyonnais auraient dû s'imposer, je pense... au niveau de la physionomie du match, ils ont eu pas mal d'occasions. Et encore une fois, Marseille peut dire merci à son gardien Mandanda.
Et Lyon peut dire merci à l'arbitrage aussi.
Ou d'ailleurs, oui, donc ils ont marqué sur un penalty.
Un coup franc.
Coup franc, Tolisso la reprend de volée. Sauf qu'il n'y avait pas coup franc parce qu'il n'y avait pas main de Manquillo.
Bon, après, c'est les aléas. Où c'est vrai que bon, les erreurs d'arbitrage, elles s'enchaînent. Maintenant, il y a eu un coup de gueule en termes d'arbitrage sur le match Bastia-Guingamp. On disait, voilà, les Guingampais se plaignaient de l'arbitrage, et c'était quand ils affrontent Bastia qu'il y a une nouvelle erreur d'arbitrage.
Cette fois en leur faveur.
Pour moi, l'erreur d'arbitrage, je dirais pas qu'il y a une erreur d'arbitrage, il y a bien pénalty. Et comme disent les Bastiais, ils disent, bon, la semaine prochaine, on va affronter Lyon, et vu que Lyon se plaint souvent de l'arbitrage, bon, normalement, on devrait gagner à Lyon grâce à l'arbitrage. Donc, c'est vrai que ça va être intéressant de voir le match de Lyon ce week-end. Maintenant, pour revenir à l'Olympico. Ils sont tombés sur un grand Mandanda et la question en équipe de France se pose si Loris est toujours aussi irréprochable que cela. Ce n'est pas mon avis puisque ses performances à Marseille, il ne les réalise pas en équipe de France. Mais c'est vrai que la question de la titularisation d'Hugo Loris peut se poser.
Enfin, le problème avec Loris, c'est que maintenant Tottenham est quatrième de première ligue. Il prend beaucoup moins de buts que les années d'avant. Donc pour moi, Mandanda, c'est toujours deuxième gardien. Enfin, quand même...
Et il l'a compris, dans sa tête c'est oui. Je suis deuxième gardien, si on m'appelle pour dépanner je serai présent et je le ferai sans souci.
Après Lyon méritait de gagner, enfin quand Marseille a eu des occasions ils étaient dangereux. Il y a eu un but refusé,
injustement.
Batshuayi n'était pas hors-jeu. Donc Marseille a quand même eu des occasions et c'est de bon augure pour la suite.
Aujourd'hui Marseille sans la Sana Diarra et Mandanda, c'est clair, Marseille serait dans la zone de relégation au même niveau que 3.
T'es un peu sévère, je pense, parce qu'ils ont quand même un effectif de qualité avec Isla notamment.
Ils peuvent avoir un effectif de qualité. Aujourd'hui, vous avez que deux joueurs qui sortent du lot, c'est la Sana Diarra et Mandanda. Donc, quand vous voulez devenir une équipe,
Batshuayi,
il reçoit le ballon, il tire, il marque, mais c'est pour moi, ce n'est pas un grand attaquant. Bon, malgré qu'il se montre quand même décisif devant, mais il y a que deux joueurs qui sortent du lot aujourd'hui pour prétendre être une des meilleures équipes de Ligue 1 et de rejoindre Lyon et le Paris Saint-Germain. Et ben, il faut être capable de sortir plus de joueurs et deux joueurs, ça suffit pas.
Ah, t'as oublié Nkoudou qui a fait un très bon début de saison.
Il a fait un bon début de saison, mais est-ce que sur l'ensemble de l'effectif, il ressort plus du lot que les autres?
Après, parce il a pas pesé dans les gros matchs, il a pas pesé contre Lyon. Voilà. On l'a pas beaucoup vu.
Regardez Nkoulou, Nkoulou qui était censé être un des gros piliers cette saison.
C'est mieux, fiasco. C'est mieux.
C'est mieux, enfin le début de saison quand même, il a quand même fait des boulettes, qui a quand même coûté des points
à l'OM. Il voulait partir, donc il n'a plus envie de jouer.
Et puis tu parlais justement de Nkoulou, dans ce cas-là on peut parler de Bounassar, le peu de matchs qu'il a fait, il n'a pas été mauvais, et pourtant il ressort pas plus du lot, et puis Nkoulou quelque part, il s'est montré plus décisif que Batshuayi, parce que Nkoulou en début de saison, c'est lui qui inscrivait les buts, et pourtant c'était Batshuayi qui aurait dû les mettre. Donc la question de Marseille peut se poser, pour l'instant ils sont dans la première partie de tableau, ils vont assurer un maintien. Mais cette équipe, pour l'instant, pour moi, n'a pas de niveau pour jouer l'Europa League. Sachant que pour moi, Mandanda, l'année prochaine, ne sera plus à l'Olympique de Marseille. Et que la Sana Diarra, il y a des chances qu'il soit muté dans un autre club, dû à ses performances. Ce serait mérité d'ailleurs pour lui.
On va parler de l'arbitrage aussi, parce que c'est quand même catastrophique. Ça fait 3 semaines qu'on en parle. Il n'y a pas de changement. Pour vous, quelles seraient les solutions à apporter aux arbitres? Comme la vidéo, par exemple.
De toute façon, c'est l'arbitrage vidéo. Ça se passe bien dans le rugby, donc...
Après, leur excuse, c'est que ça prend trop de temps. Bah, au rugby, ils jouent 80 minutes, ils ont vers la fin, ils font...
Et on a une nouvelle, hein, c'est pour l'Euro 2016, la goal line a été adoptée.
Oui, mais la différence, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait, ça prend trop de temps? Eh bah, bien, pas de temps additionnel, comme ça, les clubs ne se plaignent pas.
Oui.
Une alarme comme au rugby, dès que c'est terminé, vous entendez l'alarme, voilà. Et au final, voilà, vous avez 90 minutes de jeu, pas plus. Quand il y a une faute... Arrêt du temps et y a pas de problème.
Parce qu'au rugby, on n'entend jamais parler d'erreur d'arbitrage.
Mais je pense que les spectateurs, bon, forcément, d'un autre côté, si c'est contre eux que la faute est sifflée, ils seront moins contents. Mais par rapport à la justice arbitrale, on n'entendra pas les clubs se plaindre et on n'entendra pas les spectateurs. Ils préfèrent attendre 10 minutes de plus en ayant un arbitrage vidéo que ce soit fait dans la précipitation et qu'il y ait des choses qui s'oublient. Vous savez, il y a les oreillettes aussi. Donc, les personnes qui sont en haut dans les loges vidéosurveillance, ils peuvent très bien dire, là, il y a eu une faute, siffle. Les oreillettes, elles sont faites pour ça. Aujourd'hui, pour l'instant, en termes de communication, à quoi servent les oreillettes? Ça aussi, c'est une question.
Donc, on va passer à 3 qui a gagné son premier match ce week-end contre Lille, 3-1.
Tu as quand même profité du niveau de Lille très faible. Lille, depuis 2-3 semaines, n'arrive plus à produire du jeu quand Anthony est arrivé. Mais 3, j'espère que ça va être comme ils étaient la dernière fois en Ligue 1. Ça va être une victoire, puis après tout va s'enchaîner, puis ils vont peut-être réussir à se maintenir.
Ce qu'on leur souhaite.
Ouais, le maintien, ça sera dur. Hein. Personnellement, même eux n'y croivent pas. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est la pensée de l'entraîneur troyen vers Jean-Marc Furlan, où il a dit qu'il avait une pensée déjà pour ses joueurs et qu'il imagine bien aussi le mal qu'a eu Jean-Marc Furlan tous les lundis matins lors des jours de reprise à remotiver ses joueurs, à leur dire que c'est pas terminé. Et donc cette victoire est lui aussi un peu dédiée. Je pense que cette victoire, elle appartient avant tout à Jean-Marc Furlan, car le travail fourni, c'est lui. Donc clairement, il y a des jeunes comme Cabot qui se démarquent, et c'est dommage parce que ces jeunes, forcément l'année prochaine, ils seront plus là.
Lyon s'intéresse à lui, donc...
Lille aussi, Corentin Jean est prêté, puisqu'il a été acheté cet été par Monaco. Donc
Pi est prêté aussi.
C'est un joueur important. Vous avez un effectif troyen qui va encore baisser l'année prochaine, et ça va faire comme les saisons, petit à petit, les troyens vont baisser de niveau. Donc,
heureusement qu'ils peuvent s'appuyer sur un bon centre de formation. Ils ont déjà sorti des très bons joueurs comme Pi, Jean et Cabot, notamment.
Mais ce serait mieux pour eux de se maintenir, c'est certain. Maintenant, première victoire. Forcément, c'est quand on ne les attend pas qu'ils l'ont.
Et puis, ce sera pour la dernière.
Ça fait déjà 3 matchs d'affilée. Ils avaient joué contre Bastia, contre Rennes. Ça fait plusieurs matchs que j'attendais une victoire des Troyens.
Rennes, qu'ils auraient dû mériter.
Contre Rennes, ils auraient dû gagner le match. Et ils perdent 4-2 alors qu'ils menaient 2-0.
Erreur d'arbitrage.
Et là, c'est sur le match où j'attends un réveil lillois. Face aux Troyens, forcément, c'est Troyes qui gagnent. Donc, bravo aux Troyens. Les Lillois ont lâché beaucoup trop tôt, à 20 minutes de la fin, je crois, ou un quart d'heure. Et ça leur a coûté 2 buts. Donc, voilà.
Même chose, j'espère que cette victoire-là ne va pas les casser dans leur. Ne vont pas revenir comme au début de saison. Que ça va les lancer enfin pour essayer de revenir d'abord sur Toulouse avant de revenir sur Reims qui est premier non relégable.
Si je me trompe pas, le Paris Saint-Germain, c'est lui qui se déplace au Stade de l'Aube. Bah, on peut s'attendre à un gros match au Stade de l'Aube entre Troyes et le Paris Saint-Germain. Sachant que Troyes avait perdu 4-1 mais n'avait pas démérité dans le jeu. Donc...
On va en parler maintenant du Paris Saint-Germain en Coupe de la Ligue qui s'est imposé 2-0 contre Toulouse. ils retrouveront Lille en finale. Pronostic. Paris.
Paris logiquement devrait gagner.
J'ai envie de mettre Paris parce que forcément ils paraissent au-dessus de tout le monde encore cette saison. Mais le fait qu'ils se contentent du minimum dans leur match, le match de Lille, c'est vrai que ça me convainc. Ouais.
Après, si Lille joue la même chose qu'a fait Toulouse pendant 3 matchs, ils peuvent surprendre le PSG.
Après, regardez Angers, ils sont pris une volée contre Paris.
Oui, c'était au Parc des Princes, là, ce sera au Stade de France.
C'est Paris.
Il y aura 40 000 spectateurs lillois et 40 000 spectateurs parisiens. Moi, je laisse quand même une petite chance aux Lillois, parce que les Lillois, ils ont produit quelque chose d'intéressant contre Bordeaux. Et alors, je sais plus quel joueur c'était, si c'était pas Bouffal qui disait cela, que c'est dommage de voir aujourd'hui le match qu'ils ont produit et la première partie de saison ratée. Donc, ils peuvent avoir des regrets. Et c'est vrai, parce que je l'avais dit, Lille, pour moi, avait, après le Paris Saint-Germain, la meilleure défense. Ça s'est vu. Antonetti arrive, il remet la défense initiale, donc de départ, que je trouvais vraiment bonne. Il l'a mise en place, notamment avec Sivelli, qui a reçu le brassard de capitaine. C'est important, hein. Sivelli et Antonetti, ils étaient ensemble à Nice. Donc, cette équipe va avancer.
Puis, il a quand même de la réserve. Enfin, la réserve, il a quand même vu une belle équipe, parce que Bouffal et Mavouba étaient sur la touche au moment du coup d'envoi contre Bordeaux. C'est-à-dire que même avec deux joueurs importants du LOSC, ils ont réussi quand même à dominer Bordeaux.
Et puis un joueur qui est arrivé, c'est Ronny Lopez qui va faire énormément de bien.
Il va y faire énormément de bien. D'ailleurs, ils ont aussi encaissé des départs avec Sébastien Frey, qui en a joué que 2-3 matchs. Il s'était blessé.
Gravement. Hein.
Et donc, il retourne en Suisse. Et je crois qu'il y a eu le départ d'un autre joueur aussi, mais je ne suis pas sûr. En tout cas, les Lillois ont une deuxième partie de saison à réaliser. Alors maintenant, moi, la question que je me pose, c'est que ça fait plusieurs anciennes grosses équipes de Ligue 1 qui petit à petit cette saison ont montré des faiblesses. Il y a eu d'abord Marseille dans la première partie de tableau aujourd'hui. Vous avez Lille,
Lyon, Saint-Etienne, Monaco.
Lyon, Saint-Etienne, Monaco sont dans la première partie depuis le début de la saison.
Ils ne montrent pas un jour flamboyant.
Ils ne montrent pas, mais ils sont dans l'autre tableau. Mais vous regardez dans le bas, vous aviez Marseille. Bon, Marseille est remonté. Vous avez Lille,
Bordeaux,
vous avez Bordeaux et vous avez Montpellier
qui est dans la zone rouge.
Donc aujourd'hui, vous avez 4 équipes. Parmi ces 4 équipes, pour moi, il doit y en avoir une qui descend en Ligue 1, en Ligue 2, pardon. Et laquelle ça sera? Est-ce que ce sera Bordeaux? Pour moi, pour l'instant, ça me paraît le plus possible. Je me disais Montpellier, mais avec l'arrivée de Frédéric Hans à Montpellier, c'est pas possible. Personnellement, je vois pas Frédéric Hans faire descendre Montpellier.
Il avait réussi à faire maintenir le Mans, donc il réussira avec Montpellier.
Et il a réussi avec Bastia. C'était surtout un entraîneur demandé par beaucoup de clubs. Donc, si Hans faisait descendre Montpellier, ce serait dommage, sachant que pour moi, Montpellier ne pouvait pas réussir à se maintenir avec deux entraîneurs au poste. Hein. C'est impossible. Ou ce sera Bordeaux. Ou ce sera Lille. Lille, pour moi, va se maintenir. Donc, il y a un choix à faire entre les deux. Ça sera un choix dur, mais je pense que l'équipe la plus fébrile aujourd'hui, c'est Bordeaux. Et d'ailleurs, la question est là. Carasso s'est blessé. Il est out jusqu'à la fin de la saison.
On parle d'autre choix en prêt pour le remplacer.
Mais la question est, faut-il garder Prior ou non? Moi, je ferai confiance à Prior.
Sur ce qu'il a montré sur le dernier match, il avait fait une boulette. En Coupe de France, je me souviens. Boulette et...
Il vient d'en prendre 5. Tout n'est pas de sa faute.
C'est pas de sa faute, hein, quand vous voyez les buts de l'ECSC, il avait pas de défense, le Prior. Moi, je pense que c'est un gardien, c'est le moment de lui laisser sa chance. C'est vrai que c'est le problème des gardiens à Bordeaux. Les gardiens à Bordeaux ne sont jamais prêtés à des clubs de Ligue 2, donc ils ont pas le temps de prendre de l'expérience. Et Bordeaux est obligé à chaque fois de recruter un nouveau gardien. Donc je pense que c'est la chance pour Bordeaux de faire confiance à Prior. Ce sera le choix de Sagnol. Ochoa à Bordeaux, ce sera un bon choix, mais maintenant Ochoa, ça fait un petit bout de temps qu'il joue plus.
Il faudra qu'il retrouve le rythme. Donc on va passer à la Coupe de France avec les tirages avec toi, Valentin.
Oui, avec des équipes de Ligue 1 qui ont hérité de clubs de CFA. Ajaccio ira en Bretagne à Saint-Malo. Marseille ira chez la surprise.
Pronostic d'abord, Saint-Malo, Ajaccio.
Ce sera une victoire de Saint-Malo.
Saint-Malo aussi.
Saint-Malo.
Marseille qui ira chez la surprise du tour précédent de Trélissac. Où le match jouera à Chabandelmas, ce que ne voulait pas Trélissac.
Ce que ne voulait pas Trélissac pour le déplacement des supporters. Je pense que ça aurait pu jouer à Périgueux, le stade.
Ils ont joué contre Lille à Périgueux, pourquoi pas l'OM?
Pourquoi pas l'OM? Maintenant, en termes de sécurité, c'est vrai que ça demande peut-être plus d'agents de police pour la venue des supporters marseillais. C'est le petit problème qu'il peut y avoir pour Trezissac. Pour moi, Trezissac a les capacités de créer l'exploit. Trezissac va se qualifier.
Marseille.
Trezissac aussi. Granville, dernier club normand, ira recevra Bourg-Perona.
Recevra peut-être Bourg-en-Bresse.
Bourg-en-Bresse, oui, Bourg-Perona, oui.
Bourg-en-Bresse. Parce qu'il y a eu le match donc, contre Bourg-Perona, la fédération française avait refusé qu'il se joue à Granville. Granville a porté une réserve. Pourquoi ça se jouerait à Bourg-en-Bresse alors qu'ils avaient déjà accueilli le Stade Lavallois lors des précédents tours. Et donc la requête est peut-être acceptée, je ne suis pas sûr, j'ai pas pensé à vérifier. Mais donc le match se jouerait peut-être à Granville, c'est encore à voir. En tout cas, il y a eu les horaires qui ont changé à 3 reprises. Et le dernier horaire qui était prévu, c'était à 1h30 le mercredi. Et il a été déplacé finalement le mardi à 21h. C'est vrai que c'est un peu plus...
1h30 de la nuit.
13h30. C'est vrai que ça fait un peu tôt pour un mercredi midi. Mais en tout cas, Granville a des espoirs de réaliser quelque chose. Mais pour moi, ce sera Bourg-en-Bresse qui se qualifiera.
Et Bourg-en-Bresse.
Bourg-en-Bresse. Et il y a le choc de ces 16e de finale. Paris qui recevra Lyon.
Et Paris qui reçoit encore.
Qui reçoit encore.
Bon, de toute façon, Paris gagne.
Paris gagne. Lyon a un manque de réalisme trop.
Oui.
C'est au Parc des Princes. Ça se jouerait à Lyon. Pour moi, Lyon aurait ses chances. Aujourd'hui, c'est au Parc des Princes. Par contre, on regarde, il y a eu une requête de fait par Jean-Michel Aulas qui s'est dit prêt à aider le Paris Saint-Germain par rapport à la Ligue des Champions, puisqu'il a demandé le report du match de Coupe de France et de championnat. Alors, le match de championnat, les Lillois seraient plutôt d'accord pour aider les Parisiens.
Ah, pas Antonetti. Antonetti lui serait contre parce que s'il ferait jouer le 20 février, le 24 et le 27 février, ce qu'il ne veut pas.
Oui, mais après, par contre, Jean-Michel Aulas était d'accord à une seule condition. C'est que le match Paris Saint-Germain-Lyon se joue à Lyon.
Jean-Michel est toujours comme ça.
Chose qu'ont refusé les Parisiens. Et je pense que si les Parisiens auraient voulu donner une bonne image d'eux-mêmes au football français, la moindre des choses aurait été d'accepter ce changement de stade. Car ça fait quand même beaucoup. En fait, Paris reçoit à chaque fois. Oui. À chaque fois qu'il peut recevoir, il reçoit. Donc il y a un moment donné, quand on propose des arrangements comme ça, il faut les accepter.
En 8e, ils joueront une Ligue 2 à Paris. On pourrait le croire.
Ce serait lamentable si une Ligue 2 devait se déplacer au Parc des Princes. Sachant qu'il n'en reste que 3.
Il n'en reste que 3, oui.
Donc on va passer avec les championnats étrangers. Manchester United.
Il y a Sochaux-Monaco.
Il y a Sochaux-Monaco. Après, Sochaux peut gagner.
Pour moi, victoire de Sochaux.
Sochaux, allez.
Et on ira sur un Sochaux-Paris Saint-Germain.
Tu m'as coupé pendant mon sommaire, donc... Manchester United qui n'y arrive plus, quel est le problème?
Le coach.
Qui a démissionné.
Non.
Il n'a pas démissionné, j'ai cru voir ça.
Ah, tu as rêvé, Dylan.
Pas encore.
Il est encore en poste.
Ça ne serait tardé.
Pas encore, enfin il y a un problème. À un moment il va arriver, il ne va plus pouvoir s'entendre avec les joueurs.
Là il est submergé par la presse. C'est la presse qui, à mon avis...
Lui il dit que tout va bien dans le vestiaire, qu'il n'y a aucun problème avec ses directions.
Dans le vestiaire si ça va, mais je pense que c'est avec la presse plutôt que
c'est
tendu.
C'est la pression de la presse, on lui rappelle aujourd'hui que ce qu'a fait Alex Ferguson. Pourtant Ferguson a dit prenez Van Gaal, c'est l'entraîneur idéal. Et la presse lui met beaucoup trop la pression à lui et à ses joueurs. Aujourd'hui on parle incessamment du retour de Ferguson en tant que conseiller pour Ryan Giggs. Et ça fait pas de bien et à son équipe et à lui. Aujourd'hui de toute façon Manchester sont dans les choux. Et c'est vrai que c'est compliqué pour la suite de la saison. C'est dommage parce que, encore une fois, petit à petit, Manchester disparaît.
Puis ils sont en train de perdre des points énormes.
Peut-être qu'il est temps aussi pour la famille Glazer de tourner la page de son histoire et d'écrire une nouvelle histoire. Parce que finalement, la famille Glazer, c'est l'histoire de Ferguson. Est-ce qu'il ne faut pas un nouvel...
Il faut rester dans la tradition, je veux dire, que Ferguson a fait à Manchester. Pour moi, il y a Guardiola qui va le remplacer.
Ils ont essayé avec comment il s'appelle,
Moyes.
Ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut pas un nouvel actionnaire, un nouveau projet pour un nouveau Manchester? Ce serait le troisième changement.
Après, je pense que si les propriétaires devaient à tout changer, c'est pas eux qui partiraient. Ils changeraient carrément l'entraîneur.
Pour moi, ça doit. C'est comme à Marseille. Pour qu'il y ait un nouvel essor, il faut un changement de propriétaire. Et c'est ce qui doit se passer. À Manchester, c'est le problème du projet aujourd'hui qui coince.
Projet de jeu.
Projet général du club.
C'est surtout quand même qu'ils sont en train de Surtout qu'ils sont en train de perdre énormément de points. Ils ont perdu des points sur West Ham. Ils ont perdu Southampton qui est en train de revenir.
Ouais, enfin Southampton, mais quand même 4-0 Arsenal qui est le leader.
Donc, oui, enfin ils peuvent pas permettre de jouer comme ils jouent.
Oui, mais bon, on va pas polémiquer sur les résultats d'Arsenal 4-0. Manchester en a pris pas mal, notamment l'année dernière contre une équipe de Détroit. Donc je rigolerai pas de ça, moi.
Enfin, quand même, Manchester a du mal à tirer au but. Enfin, il tire au but, mais
il ne marque pas.
Comme Lyon. Enfin, il faut déjà qu'il cadre leur frappe. Il manque rien.
Donc, on passe à Chelsea qui a gagné contre Arsenal 1-0. Est-ce inquiétant pour Paris Saint-Germain qui va aller jouer en Ligue des Champions, on le rappelle?
Non. Non, c'est pas inquiétant. Mais par contre, qu'y a-t-il, Valentin?
Non.
Mais par contre, ce qu'on peut décréter, c'est que bah il y a une malédiction qui est sur Arsenal. Ça fait des années qu'ils n'ont pas remporté le derby londonien contre Chelsea.
Et même quand Mourinho n'est pas là, ils perdent.
Oui, même quand Mourinho n'est pas là. Mais ouais, c'est dur pour Arsenal cette défaite. Mais le championnat n'est pas terminé et Arsenal, pour moi, est toujours le grand favori au titre.
Non, Paris ne doit pas s'inquiéter. Ils ont quand même profité du carton rouge de Mertesacker pour gagner le match. À 10 contre 11, ils ne gagnent 15-0.
C'est une équipe qui n'est pas en confiance. Déjà gagné pour eux contre Arsenal, c'est un exploit. Hein.
Bah, il faut match nul contre West Brom.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Et puis pas que contre West Brom.
Pas que contre West Brom. Alors que Paris gagne 5-1 contre le deuxième du classement. Qui était Angers.
Angers, oui, bah oui, qui était un promu. Leicester, qui est un promu de la saison passée, aujourd'hui, vous avez vu les performances qu'il réalise. C'est la même chose. Qu'est-ce qu'a réalisé Chelsea quand il a affronté Norwich ou Watford?
Une victoire 1-0.
Seulement. On va passer en Italie avec la choc Juventus-Roma, où la Juve s'est imposée.
Malheureusement, la Juve s'impose.
La Roma ne reviendra pas.
C'est terminé pour la Roma.
Déjà, la Roma doit espérer et doit tout faire pour aller en Ligue des Champions. Je ne sais pas si le changement d'entraîneur va leur faire du bien.
En plus, ils viennent de perdre Mourinho.
Gervinho. Mais ça, c'est le changement d'entraîneur qui leur coûte le départ de Gervinho. La Roma n'a toujours pas compris que pour limoger son entraîneur, il fallait attendre le match contre la Juve. Si l'équipe de Rudy Garcia avait perdu contre la Juventus, ok, pas de problème, on limoge Rudy Garcia et c'est bon. Mais faire ça juste avant le Classico, moi j'aurais pas fait ça. Aujourd'hui, voilà, la Roma ne reviendra pas dans la course au titre et la Roma perd Gervinho et la Roma va encore plus patauger qu'avant.
Et je pense même qu'ils ne vont pas se qualifier en Ligue des Champions,
je
parce
pense
que devant,
qu'ils
c'est
vont
costaud.
Se qualifier en Ligue Europa. De toute façon, est-ce qu'ils ont le niveau de Ligue des Champions? Bon, ils sont qualifiés en 8e, mais ils vont se faire éliminer par le Real de Madrid en 8e. Ça me paraît inévitable. Enfin, on verra bien, allez savoir que Zidane, ça se trouve, on n'a pas le niveau Ligue des Champions en tant qu'entraîneur. Mais voilà, c'est désolant de voir la Roma là.
Bah, Rome, oui, c'est sûr, ils n'auront pas en Ligue des Champions. D'accord, s'ils continuent à perdre comme ça, est-ce qu'ils vont aller en Ligue Europa? J'espère pour eux. Mais bon, après, pourquoi pas, ils ont pris quand même un entraîneur, là, un ancien de la maison, mais...
Parce que c'est pas Spalletti qui avait pas fait de grandes choses.
Est-ce qu'ils vont le garder jusqu'à la fin de saison par intérim ou est-ce qu'ils vont changer en fin de saison ou le garder? S'ils le gardent l'année prochaine, ça risque d'être la même chose que cette deuxième partie de saison.
Et on va passer aux infos locales avec notamment le derby entre Conly et Tenny en coupe.
Oui, le derby de la Champagne conlinoise, un gros match. Petit résumé, donc 0-0 en première période. En deuxième période, l'US Conly inscrit deux buts par l'intermédiaire de Valentin Guibert et d'Anthony Bolival. Et oui, les Conlinois pensaient peut-être que c'était déjà gagné d'avance, mais non. À un quart d'heure ou 10 minutes, un quart d'heure de la fin, Tenny revient avec tout d'abord une première tête de David Vivet, encore une fois buteur.
Et il n'y a que lui qui marque du côté de Tenny.
Et non, enfin oui, c'est le meilleur buteur de Tenny.
Peut-être même le meilleur joueur.
Et bien sûr, c'est le pur tennisien Bertrand Hardy qui, dans les toutes dernières secondes du temps additionnel, égalise. Donc ça fait deux partout et c'est en prolongation que David Vivet va inscrire le troisième but. À noter qu'une grosse occasion en première période avait été manquée par Tenny. Il arrive dans la surface, le gardien de Conly se fait passer et la pelouse était en très mauvais état. Du coup, le joueur de Tenny... Non, pas de taupe, mais en très mauvais état. Et le joueur de Tenny, qui était pourtant seul face au but, a trébuché et du coup n'a pas pu terminer son action. Et Tenny a joué sans gardien durant quasiment la totalité du match, puisque dans les 5 premières minutes de jeu, Jonathan Vulgens a senti une douleur et donc a été sorti par précaution, notamment pour le derby contre Sillé dans 2 semaines. Donc voilà, et bonne ambiance tout de même au stade.
Alors, Sillé s'est incliné 4 buts à 1 contre une deuxième division, contre Pont-Vallin, à domicile. Petit pronostic pour le derby Tennessee.
Alors déjà, il y a une journée de championnat qui va jouer ce week-end.
Ouais, mais c'est le derby qui nous intéresse.
Et le derby nous intéresse, et je pense que Tenny, étant tennisien, je ne vais pas pronostiquer leur défaite.
T'habites à Sillé, Dylan.
Je ne vais pas pronostiquer leur défaite, et je les vois même s'imposer à domicile, car ils repartent sur une bonne dynamique. C'est surtout la dynamique que je retiens, car une équipe qui a eu de grandes difficultés en première partie de saison vient de récupérer ses blessés, et si la dynamique se poursuit, Tenny gagnera le derby.
Étant Sillé, je vais dire une victoire de Sillé. On va demander à une personne qui est neutre, Valentin.
Bah, match nul.
Je l'attendais, oui.
Match nul, oui.
Donc c'est là-dessus qu'on va se quitter. Je vous dis à la semaine prochaine, notre émission Parlons Foot, 87.9 FM sur fréquence Sillé. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.